Vous écoutez RTL.
RTL Matin, 9h20, RTL Matin, édition spéciale le jour d'après, Bernard Poirette.
Donc, RTL vous propose ce matin un document unique et tout à fait exceptionnel, l'enregistrement d'un dialogue entre un terroriste et ses otages. Le terroriste, c'est Amedy Coulibaly, l'assassin jeudi matin d'une policière municipale à Montrouge, assassin encore hier de 4 innocents dans un supermarché cachère porte de Vincennes à Paris. Ce dialogue, nous avons pu le capter en tentant de joindre par téléphone ce supermarché après l'annonce de la prise d'otage. Téléphone qui ensuite a été mal raccroché dans le supermarché, volontairement ou pas. Bien sûr, hier, nous n'avons pas diffusé cet enregistrement pour ne pas mettre en danger la vie des otages. Mais ce matin, après une longue réflexion, nous avons choisi de vous proposer quelques extraits tout de même de ce dialogue. Jean-Alphonse Richard, même si la qualité sonore du document est parfois limite, il faut bien tendre l'oreille, mais ça apporte un éclairage tout à fait unique pour tenter de comprendre la dérive de Coulibaly, sa détermination froide qui a coûté la vie à 5 innocents.
Oui, il est un peu plus de 15 heures lorsque RTL tente de joindre le supermarché de la Porte de Vincennes où se déroule la prise d'otage. Amedy Coulibaly décroche, ne répond pas directement, puis raccroche mal le combiné. S'engage alors une longue conversation entre Coulibaly et quelques otages. Sur un ton direct, l'homme armé de deux fusils mitrailleurs, sans laisser le choix du dialogue à ses interlocuteurs, entend justifier son action.
Moi, je suis dans le fond,
le preneur d'otages reprend la dialectique djihadiste, fait allusion à l'État islamique, son action, une vengeance tout à la fois contre l'État syrien et la coalition occidentale présente au Mali, en Irak ou en Afghanistan.
Avec Bachar al-Assad en Syrie, mettez du chimique sur les gosses, là. Tout le monde qui torturait les gens. Ils ont pas intervenu pendant des années. Il y a quelqu'un qui fait ça. Bombardier, coalition de 50 000 pays, tout ça. Il y avait le nord du Mali. Il y avait quoi au nord du Mali? Et qu'il y a eu la Syrie, ça a commencé en même temps. En même temps, il y avait des enfants qui mourent. En Syrie, et au Mali, il y avait zéro mort. Ils ont tué 100 ou 200 personnes, c'était des militaires. Il n'y a eu aucune exaction au Mali. Zéro. Parti intervenir là-bas. Et moi, je vous le dis à vous. Je ne suis pas très au courant de ce qui se passe. Mais ça, c'est bientôt fini. Comme moi, pour venir, il y en aura de plus en plus et vous êtes de plus en plus. Donc, qu'ils arrêtent. Je leur dirais bien qu'ils arrêtent. D'arrêter d'attaquer l'État islamique, d'arrêter de dévoiler nos femmes, d'arrêter de mettre nos frères en prison pour rien du tout.
Les explications de Coulibaly sont sans surprise. Arme à la main, l'homme avance des arguments plus ou moins brouillons.
C'est vous qui avez élu vos gouvernements. Et vos gouvernements, ils vous ont jamais caché que vous allez faire la guerre au Mali ou ailleurs.
Et alors là s'engage le dialogue avec l'un des otages.
Deuxièmement, c'est vous qui les financez. Vous payez les taxes, des trucs, vous êtes d'accord avec eux. Hein ? Vous êtes obligé, mais je ne paye pas mes impôts, moi. Ah oui, tu peux te désavouer, pas payer tes impôts. Pas mes impôts.
Oui, mais quand moi je paye mes impôts, que je veux, et pour la route, je passe des super écoles.
Quand tu as payé tes impôts, moi, quand tu as payé tes impôts, sur la somme que je vais leur donner, 30% elle va aller à la défense, 30% à je sais pas, à l'agriculture, etc., etc. Bon, c'est mieux que qu'est-ce qu'on
fait. C'est comme toi demain, je te permets, hein. Prends un coca, t'es blindé de sucre, t'as soif. Ouais, t'as pas le choix, tu dois vivre. Peut-être que ça te fait du mal à ton corps, mais t'as pas envie de te faire du mal.
T'as pas le choix de pas vivre. Tu peux aller vivre en Israël, tu peux aller vivre dans tout d'Algérie.
Non, c'est pas ça que je veux te dire. Quand tu manges quelque chose qui est pas bon pour toi, parce que c'est bon, du sucre, des frites, c'est du le. Tu manges parce que tu dois manger. Peut-être que ça te fait du mal indirectement, mais tu veux pas te faire du mal. Nous, c'est pareil, on paye nos impôts, mais on fait de mal à personne.
D'accord, mais moi, je dis que jamais tous les individus arrivent à s'unir, comme là pour Charlie Hebdo, arrivent à s'unir pour élire un président, et bien faites la même chose en vous disant, faites des manifestations et dites, c'est les musulmans tranquilles, vous nous laissez tranquilles. Pas vous le faites pas.
Manifester pour demander de laisser tranquille les musulmans, encourage Coulibaly. La conversation semble presque banale, mais la menace est vite de retour.
Nous, chez nous, c'est la loi du talion. Vous la connaissez très bien. C'est la loi du talion. Ça veut dire, Allah, il a dit dans le Coran, quand il transgresse, transgresser à transgression égale. C'est-à-dire que nous, à la base, si on touche aux enfants, si on touche aux femmes, si on touche aux non-combattants, si on touche aux vieillards, on s'attaque aux hommes qui combattent. Attends. Aux hommes qui nous combattent. Maintenant, moi maintenant je vous le dis à vous, parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans les pays musulmans, c'est pas votre armée là, ils ne veulent pas mettre les pieds là-bas, ils n'arrivent pas à combattre ces. Ils n'arrivent pas. Bon, c'est pas ça parce que je suis un musulman. Jamais ils arriveront à nous battre. C'est pour ça que partout où ils ont été, jamais ils ont réussi. Allah, il est avec nous.
Un discours souvent nébuleux, pétri de haine rentrée et d'excitation, jusqu'à citer enfin le guide dont Coulibaly se réclame, Oussama Ben Laden.
Comme il a dit, Là, c'est quelqu'un que vous connaissez. Osama Ben Laden, vous connaissez. Donc Osama Ben Laden, rahmallah, il a dit, vous n'allez jamais goûter à la paix, c'est nous qui ne pas à la paix en Palestine.
Une litanie identique à celle de tous les djihadistes qui aura duré jusqu'à l'assaut des forces de l'ordre.
Assaut qui s'est terminé donc par la mort de Koulibaly peu après 17h. Document exceptionnel diffusé par RTL après mûre réflexion de l'ensemble de la rédaction. Avec nous ce matin en studio, le grand spécialiste de l'islam, Gilles Kepel. Monsieur Kepel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez écouté deux fois ce document lors de la première diffusion il y a une heure et maintenant. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes surpris par ce dialogue et cette rhétorique de Koulibaly ?
Le dialogue, d'abord, est extrêmement émouvant. Vous avez quelqu'un qui essaye de raisonner, d'attraper Koulibaly dans une manière de fonctionner rationnelle, en lui donnant des exemples.
Il a déjà tué 4 personnes.
Hein. Exactement, oui, vous imaginez la tension et qui s'efforce de domestiquer d'une certaine manière ça, et on ne peut être que très impressionné par le courage extraordinaire de cet otage, quand on pense que le monstre a deux pistolets mitrailleuses à la main. Par ailleurs, pour ce qui est du ce qu'on n'ose pas appeler de raisonnement de Koulibaly, oui, il est très emblématique justement de la déstructuration mentale produite par la consommation à haute dose des âneries sur les réseaux sociaux et par cette espèce de mélange avec ce vocabulaire lamentable, ces raisonnements binaires, très très simplistes, et le fait de répéter ces espèces de formules qu'il a attrapées ici ou là. Et ça pourrait ne pas avoir de conséquences, mais le problème, c'est que des individus de ce type, et il en va de même pour les frères Kawashi, et un certain nombre de ceux qui partent aujourd'hui faire le djihad en Syrie,
oui,
ce sont justement des choses qui vont transformer ce qui ne devrait être que des élucubrations grotesques en action, avec des armes, avec le lien, en ce qui concerne, avec toute une tradition de grand banditisme et de braquage. Et ça, bien sûr, c'est ce qui est particulièrement préoccupant pour notre société, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que cet individu qui aurait dû être un braqueur normal, oui, si j'ose dire, est devenu un djihadiste qui va se coordonner avec les frères Kawachi et qui va attaquer un supermarché cachère juste au moment qui précède le Shabbat, c'est-à-dire quand il est sûr qu'il y a beaucoup de consommateurs à l'intérieur.
Il y a beaucoup de monde dedans puisqu'il a eu 17 otages hein, quand même.
Oui,
hein,
ce qui est quand même énorme en termes de...
Donc, à un moment, il dit aussi, vous avez bien entendu Gilles Kepel, il dit, il y aura de plus en plus d'actions comme ça. Moi, je suis l'avant-garde, en quelque sorte, avec les frères Kouachi. Donc, il semble avoir des informations, il semble savoir que des réseaux s'activent derrière lui.
Oui, peut-être.
Vous l'imaginez.
Oui, ça n'est pas sûr, parce qu'il est dans la déclamation, si vous voulez, mais en termes d'analyse de ce qu'on peut tirer de l'observation des réseaux sociaux djihadistes, les appels à combattre la France sont permanents aujourd'hui, l'Europe, l'Occident, etc. Et on peut imaginer qu'il y a d'autres types d'esprits faibles dans son genre. Mais ce qui me frappe beaucoup dans cette affaire, dans ce qu'on sait, c'est la faillite complète de notre système de prison. Puisque comment est-ce qu'un braqueur minable de ce genre
devient un tueur,
même s'il avait, vous avez eu cette histoire ahurissante, il avait été reçu à l'Élysée par Nicolas Sarkozy.
Comme étant un jeune prometteur de banlieue.
Oui, ça, là aussi, il y a quelques failles qui ont dû se manifester quand même. Qu'est-ce qui fait que en prison et à travers la prison, il rencontre, comme l'un des frères Kawachi d'ailleurs, Jamel Béral, oui, qui est lui un véritable recruteur du djihadisme et qui va transformer des braqueurs et des types qui sont vaguement réislamisés en djihadistes déterminés, prêts à tuer, à déshumaniser leur adversaire. Ce qui est très frappant en même temps, c'est cette volonté de s'expliquer. Est-ce que c'est pour passer le temps avec des otages que par ailleurs ils tuent quand on sait évidemment que dans ces mouvements, d'une certaine manière, les impies, les juifs, les musulmans apostats, c'est-à-dire ceux qui ne suivent pas leur vision à eux, des choses sont considérées comme du gibier, sont déshumanisées et vont être abattues, c'est quelque chose qui fait véritablement froid dans le dos. Mais si vous voulez qu'on peut analyser, et j'entendais sur diverses antennes des gens dire nous sommes en guerre contre les djihadistes. Non, eux sont en guerre contre la France, mais de notre point de vue, ce sont des opérations d'analyse, d'opérations de police qu'il faut mener, et on n'est pas dans une logique, quant à nous, de guerre. Sinon, c'est notre société qui se transforme. Il faut continuer à pouvoir vivre en société et surtout à éradiquer ce type de phénomène. On va y arriver.
Merci infiniment, Gilles Kepel, grand spécialiste de l'islam, politologue. Merci pour cet éclairage indispensable après la diffusion de ce témoignage qui nous a posé questionnement ici à RTL et que nous avons choisi donc de diffuser. Merci, bonne journée à vous, Gilles Kepel.
Merci.
Et retrouvez la vidéo de l'interview de Monsieur Kepel sur notre site rtl.fr.
Dans un instant, juste après la pause, l'essentiel de l'info, puis deux autres invités, le président des institutions juives de France, du Conseil représentatif, et puis le socialiste Julien Drey. Merci, à tout de suite.